Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la Sainte Église nous fait entrer aujourd'hui, pour trois dimanches, dans une nouvelle épître de Saint Paul. Nous avons entendu durant les semaines passées de larges extraits des épîtres aux Corinthiens et nous entamons aujourd'hui un petit florilège de l'épître que le grand apôtre adresse non pas seulement à une cité, une ville, mais à toute une province, celle de la Galatie. Et pour bien comprendre le texte que nous venons d'entendre, il faut d'abord en connaître le contexte. Saint Paul, qui a évangélisé cette région lors de son premier voyage apostolique, apprend que son enseignement est remis en cause par quelques nouveaux prédicateurs venus de Judée qui mettent en avant la loi juive et qui disent aux chrétiens venus du paganisme « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse et si vous n'observez pas toutes les prescriptions de la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » C'est ce qu'on appelle la querelle des judaïsants qui a troublé l'Église dès l'époque des apôtres et qui pose la question des rapports entre la loi juive, la loi de Moïse, et le salut. Si la loi juive est bonne, si elle vient de Dieu, comment les chrétiens peuvent-ils en être dispensés ? Cette loi n'a-t-elle pas été pratiquée par notre Sauveur Jésus lui-même ? Ne devons-nous pas suivre son exemple ? Et n'a-t-il pas déclaré « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ?» Pour les judaïsants, la loi du Christ et les rites qu'il a institués, comme le baptême ou la Sainte Eucharistie, venaient se surajouter à la loi juive et à tout son rituel qui était encore en vigueur. Et donc, ce rituel juif, cette loi juive, devait être imposée même aux chrétiens qui venaient du paganisme. Comment donc réagit saint Paul ? Dans le passage qu'on vient d'entendre, son argument central est chronologique. Il rappelle qu'il y a eu successivement trois étapes importantes dans le plan du salut. D'abord Abraham, puis ensuite, plusieurs siècles plus tard, plus de 400 ans plus tard, Moïse, qui a donné la loi, et enfin, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est une erreur de ne regarder que la loi de Moïse. Il faut penser à Abraham, qui était là plus de 400 ans auparavant. Et précisément, quand le peuple juif a-t-il reçu la promesse du Messie ? Comment sait-il que le Sauveur doit naître de sa race ? De qui hérite-t-il cette promesse ? Non pas seulement de Moïse, mais d'Abraham, 400 ans plus tôt. C'est à Abraham que Dieu a annoncé à plusieurs reprises que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa descendance. C'était une promesse ferme, absolue, inconditionnelle et totalement indépendante de la loi de Moïse qui n'est venue que plusieurs siècles après. Or, c'est en croyant à cette promesse qu'Abraham a reçu la grâce du salut. Et c'est en croyant à cette promesse, la promesse du Sauveur à venir, que son fils Isaac a reçu la grâce du salut. C'est encore en croyant à cette promesse que Jacob et ses 12 fils, les fondateurs des 12 tribus d'Israël, ont reçu la grâce du salut. Aucun d'entre eux ne connaissait la loi de Moïse. Et c'est bien la preuve que cette loi n'est pas nécessaire au salut et qu'elle n'est pas liée de façon essentielle au Messie et à l'œuvre messianique. Telle est l'argumentation centrale de saint Paul, à laquelle il ajoute, à titre secondaire, deux compléments. D'abord, c'est au tout début de l'épître, il note que la promesse faite à Abraham ne parlait pas de ses descendants, au pluriel, mais de sa descendance au singulier. C'est un détail minime, mais saint Paul voit dans ce singulier l'annonce d'un descendant en particulier, un descendant d'Abraham, un fils d'Abraham par excellence, en qui se réalisera pleinement la promesse et qui en fera bénéficier tous les autres. Et ce fils d'Abraham par excellence, c'est bien évidemment le Messie. À l'époque d'Abraham, on n'en connaît pas encore tous les traits, mais il y a eu ensuite bon nombre de prophéties qui ont fixé de façon assez précise tous les traits de ce Messie. C'est le premier point. Par ailleurs, saint Paul souligne que la promesse faite à Abraham et la loi donnée à Moïse plus de 400 ans plus tard ne sont pas de même nature. La promesse à Abraham est inconditionnelle, tandis que l'alliance scellée par Moïse est une sorte de contrat avec des obligations réciproques. Saint Paul, en fait, veut nous montrer que la loi mosaïque est une économie divine inférieure à la promesse. C'est d'un ordre moins important que ce qui avait été fait par Abraham. Le plus important, c'est la promesse à Abraham et l'alliance avec Moïse, importante pour le peuple juif, mais seulement pour lui, est d'un ordre inférieur. Non seulement elle est plus récente, mais on peut dire qu'elle est moins directement divine, moins exclusivement divine. Pourquoi ? Et c'est pour ça que saint Paul souligne que, alors qu'il y a eu un contact direct entre Dieu et Abraham, ça n'a pas été le cas entre le peuple hébreu et Dieu lors de l'alliance du Sinaï. Il y a eu des intermédiaires. D'abord, il y a eu l'intermédiaire, les anges, parce que c'était une tradition rabbinique de penser que la loi n'avait pas été donnée à Moïse directement par Dieu, mais par l'intermédiaire des anges. Et donc, saint Paul fait allusion à cette tradition. Donc, Dieu par l'intermédiaire des anges. Et d'autre part, il y a Moïse qui est le représentant du peuple et qui est le médiateur. Donc, il n'y a pas une promesse inconditionnelle et directe. Il y a une sorte de contrat qui est passé par l'intermédiaire d'un médiateur à un niveau inférieur. Et quel était le but de ce contrat ? Non pas d'assurer au peuple juif la venue du Messie, puisque ce Messie était déjà promis de façon inconditionnelle. C'était simplement de garder le peuple de Dieu dans l'attente des fruits de la promesse. Et c'est à ça que sert la loi. Il faut bien se rendre compte que ça n'était pas une mince affaire dans un monde envahi par l'idolâtrie, de garder le peuple hébreu fidèle à la promesse faite par Abraham pour qu'il en conserve le souvenir et qu'il continue à l'honorer. Et c'est un petit peu comme un rempart extérieur autour de cette promesse qu'a été bâtie la loi de Moïse. Il fallait qu'il y ait des rites auxquels s'adonne le peuple juif pour qu'il ne soit pas tenté d'aller imiter les rites idolâtres des païens. Il fallait qu'il y ait des pratiques qui lui soient propres afin de le forcer à se séparer des autres peuples. Et pour occuper son esprit et le forcer en quelque sorte à s'occuper sans cesse de Dieu et ne pas avoir le temps d'aller s'occuper des cultes idolâtres, il fallait qu'il y ait des prescriptions assez compliquées et nombreuses et qui se répètent de façon fréquente. Et c'est exactement ce que faisait la loi de Moïse. Cette loi n'était pas mauvaise, elle n'était pas inutile, mais elle n'était pas un but en soi. Elle était seulement le rempart qui permettait de garder dans le peuple juif cette promesse faite à Abraham. Et non seulement la loi juive n'était que secondaire, mais elle ne sauvait pas par elle-même. Ce qui sauvait les Juifs de l'Ancien Testament, c'était déjà le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. C'était dans la mesure où ils adhéraient au Messie, où ils croyaient en lui, le Messie à venir, qu'ils recevaient le salut. Et c'est là vraiment le point important sur lequel saint Paul insiste. La loi de l'Ancien Testament ne justifie pas, elle ne donne pas la vie par elle-même. Elle donnait des prescriptions, mais elle ne donnait pas la force d'y être fidèle. Pour recevoir cette force, il fallait, d'une certaine manière, déjà s'attacher à Jésus-Christ, s'attacher au Messie à venir, ce qui se faisait par la foi. De soi, elle ne sauve pas. C'est seulement le Messie à venir qui sauve. Et maintenant, si l'on veut comparer la situation des Juifs de l'Ancien Testament avec la nôtre, il y a à la fois une grande différence et une grande ressemblance. Il y a une grande différence parce que tous les rites qui étaient ceux de Moïse étaient des rites seulement annonciateurs, qui ne contenait pas proprement notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que depuis que Jésus-Christ est venu, nous avons, et particulièrement dans le Saint-Sacrement de l'autel, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ vraiment, personnellement, substantiellement présent. Nous n'avons plus des rites vides et seulement annonciateurs. Donc, de ce point de vue-là, il y a une immense différence et nous devons vraiment remercier notre Seigneur de nous avoir mis dans cet état où il est en contact direct avec nous par ses sacrements. Mais il reste quand même une ressemblance importante qui est que ce qui sauve, ça n'est jamais uniquement le rite extérieur, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est toujours essentiellement la grâce de Dieu. Alors évidemment, pour recevoir la grâce de Dieu, il est important de se mettre dans les bonnes dispositions. Donc il y a un certain nombre d'œuvres à accomplir, et si on ne les accomplit pas, on ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Mais le salut ne vient jamais de nous, le salut vient de Dieu. Et c'est la vertu théologale, la foi, l'espérance et la charité que nous mettons dans les œuvres qui nous sauvent, et non pas les œuvres en elles-mêmes. Aussi, si nous voulons être fidèles à l'enseignement donné par saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, nous devons tout simplement mettre en pratique l'oraison qui a été dite par le prêtre tout à l'heure, qui a demandé « Donnez-nous, ô Dieu Tout-Puissant, une augmentation de foi, d'espérance et de charité. » Autrement dit, une augmentation des vertus théologales, celles qui nous sont donnés par Dieu, que nous n'acquérons pas par nos propres œuvres, nous ne les fabriquons pas, nous ne sommes incapables de nous donner à nous-mêmes la moindre once de foi, la moindre once d'espérance ou de charité. Il faut que ça nous vienne de Dieu, que ça vienne du ciel, que ça soit infusé par la grâce divine. Donc il faut le demander à Dieu et Dieu nous le donne. Donnez-nous ces vertus théologales et afin que nous puissions obtenir ce que vous promettez, donnez-nous d'aimer faites-nous aimer ce que vous commandez. Donc il ne s'agit pas seulement d'obéir au commandement de Dieu, même si c'est nécessaire, il s'agit d'obéir avec charité, d'aimer ce que Dieu commande. Et c'est ça le plus important, c'est cette charité. Faites-nous aimer ce que vous commandez. Et c'est évidemment la grâce que l'on peut demander pendant cette messe et notamment pendant la communion, si nous avons cette grâce de recevoir la Sainte Eucharistie. On peut le demander par l'intercession de Saint Paul et de la Très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.